Allô? Allô?
Mais
qui ne répond pas?
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Voilà. Plus de 6 décennies après l'accession de la RDC à l'indépendance, plusieurs secteurs de la vie nationale peinent à se développer, dont notamment celui de l'agriculture. Malgré les millions d'hectares de terres arables dont dispose la RDC et les multiples programmes de relance agricole qui se sont succédés au fil des années, les secteurs agricoles ne décollent toujours pas. Comme conséquence, le pays importe de plus en plus de produits tels que le maïs, le riz, pour répondre à la demande toujours galopante d'une population en forte croissance démographique. Et selon certains experts, si le secteur agricole peine à se développer 65 ans après, cette situation serait due, entre autres, au manque de structuration des filières agricoles et des développements de l'écosystème agro-industriel. D'autres experts évoquent plutôt le faible budget accordé au secteur agricole et aussi le manque de volonté politique. La RDC, dans les années 50, premier exportateur africain d'huile de palme, et Ségon était dans les années 50, je voulais dire, premier exportateur africain d'huile de palme et Ségon exportateur au monde, et occupait aussi une bonne position par rapport au caoutchouc, café, cacao, maïs, thé et autres cultures pérennes. Que pensez-vous de l'agriculture en RDC 65 ans après l'indépendance? Vos actions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones en 971-680-79. Patrick Kiasongo est à la mise en nom de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation et la coordination. Paul Badianama est bel et bien là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. Tout et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Paroles aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur les plateformes de Radio Capi, notamment X, Facebook et également YouTube. On va parler du secteur agricole en RDC 65 ans après l'indépendance. Et si tout va bien, nous aurons en ligne le professeur Jean-Robert Ndanza Bombiti, l'expert en agriculture intelligente et durabilité. On va échanger pour savoir ce qu'il en est de l'agriculture en RDC 65 ans après l'indépendance. Comme je le dis, plus de 6 décennies après l'accession de la RDC à l'indépendance, plusieurs secteurs de la vie nationale peinent à se développer, dont notamment celui de l'agriculture. Malgré des millions d'hectares de terres arables dont dispose la RDC et les multiples programmes de relance agricole qui se sont succédés au fil des années, les secteurs agricoles ne décollent toujours pas. Comme conséquence, le pays importe de plus en plus de produits tels que le maïs, le riz aussi, pour répondre à la demande toujours galopante d'une population à forte croissance démographique. Et selon certains experts, si le secteur agricole peine à se développer 65 ans après, excusez-moi, cette situation serait due, entre autres, au manque de structuration des filières agricoles et de développement de l'écosystème agro-industriel. D'autres experts évoquent plutôt le faible budget accordé au secteur agricole, aussi le manque de volonté politique. Il faut le rappeler, dans les années 50, la RDC était un premier exportateur africain d'huile de palme et second exportateur au monde. Elle occupait aussi une bonne position par rapport au caoutchouc, café, cacao, maïs, thé et autres cultures pérennes. Alors, que pensez-vous de l'agriculture en RDC 65 ans après l'indépendance? Je rappelle le numéro, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à composer les 1-976-80-79. Comme je l'ai dit, si tout va bien, on aura en ligne, donc au téléphone, un autre invité, le professeur Homme. Fait signe qu'il est déjà en ligne, c'est bien bon. Professeur Jean-Robert Ndanza Bombiti, bonjour professeur.
Bonjour Marcel, et bonjour, je salue tous les auditeurs à travers la République démocratique du Congo et le monde entier.
Voilà, vous êtes expert en agriculture intelligente et durabilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va changer sur le secteur agricole en RDC, 65 ans après l'indépendance. Alors, dites-nous, professeur, vous, en tant qu'expert en agriculture intelligente et durabilité, quel bilan faites-vous 65 ans après du secteur agricole en RDC?
En fait, vous avez tout dit à l'introduction. La RDC, en dépit de 80 millions d'hectares de terres arables, et chaque année, nous importons pour un montant de milliards de dollars de denrées alimentaires. Et puis, vous comprendrez que les paradoxes aujourd'hui, qui constituent même une tragédie nationale financière, nous devons reconnaître que c'est un échec collectif, que nous n'avons pas pu faire de l'agriculture une vraie priorité nationale. C'est vrai qu'il faut dresser le bilan du secteur agricole. On doit reconnaître que nous avons tout essayé en République démocratique du Congo. Plus de 40 plans, projets, politiques publiques. Et tous ces projets, ces programmes promettaient notre suffisance alimentaire, ce que nous appelons assurer notre souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, à la facture, nous allons prendre l'accession de notre pays à l'indépendance 65 ans après, et vous rendrez compte que nous avons perdu la souveraineté alimentaire. Et si on dressait le bilan après 65 ans, on se dit que c'était un échec puissant. Oui, il y a eu des acquis, mais les échecs, il y en a encore. Et peut-être aussi des opportunités. Je crois aussi, nous remercions Radio Capi pour cette plateforme citoyenne et qui nous permet un peu de réfléchir ensemble de tous les sujets qui nous suivent, et nous pouvons rapidement réfléchir et faire un peu de voir qu'est-ce qui peut être fait pour booster les critères anti-fonds. Et si vous posez la question aux auditeurs, nous connaissons les problèmes de notre pays en ce qui concerne les critères anti-fonds.
Allez-y, pour ce, et quels sont réellement ces problèmes? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements, entre, il faut le dire, il y a des investissements dans ces secteurs, il y a également de plans de relance agricole. On se rappellera même à l'époque du Zaïre avec Mobutu, il y avait une banque de crédit agricole, mais tout cela n'a rien apporté pour développer l'agriculture en RDC.
Effectivement. C'est là où le problème se pose. Et je disais au début que nous avons tout essayé sauf ce qui fonctionne. Les textes, les lois, les programmes, tout ça, déterminent ce que nous devons faire. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Commençons par exemple. Nous avons ce secteur qui emploie environ 65% de la masse de travail qui est en République démocratique du Congo. Mais nous n'avons pas de statistiques agricoles. Il n'y a aucune structuration de filières agricoles et des agriculteurs en coopérative. Nous ne connaissons même pas qui est vrai agriculteur et qui ne l'est pas. Et nous avons des coopératives, parce que je travaille dans une idée, il y a des coopératives fictives qui sont là simplement pour voir comment capter des financements. Mais nulle part vous verrez, bon, il y a certainement qu'il y a des exceptions, nulle part vous verrez des agriculteurs qui sont bien organisés, structurés et assez encadrés pour les remettre dans des circuits financiers et techniques pour les accompagner. On ne trouve pas. Et pourtant, tout ce que nous avons mis sur papier ne prévoyait pas. Et on ne peut pas faire. Donc, si nous ne connaissons même pas, si nous n'avons même pas une idée que les agriculteurs, les disciplinaires dans tous les pays, et comment nous allons déterminer les besoins, leurs besoins. C'est-à-dire qu'on doit savoir, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et là, alors, nous allons planifier et décider pour venir en aide. Ça, ce n'est pas fait. Alors, si vous posez la question aujourd'hui, quelle est la quantité produite des riz en République démocratique du Congo? Ah, je suis expert, mais je vous dirais, je ne suis pas en mesure de donner ces chiffres-là. Et ça, c'est honteux pour nous, parce que, en fait, nous devons avoir des statistiques fiables. Et même si nous devons avoir des programmes qui vont nous aider à développer, il faut partir par ce qu'on appelle base zéro. On se dit, voilà, nous produisons combien? Il y a combien de producteurs? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer? Et on ne le sait pas. Et nous allons à quelques usages. 80 millions de terres arables. C'est bon. Mais il y a ce qu'on appelle la cartographie de la fertilité du sol. Quand vous allez, par exemple, dans les Kivu, et on vous dira, l'été est produit là-bas, une altitude de 1800 à 2700 mètres, température fraîche, 18 à 25, je crois. Et puis, le sol aphysique. Ça dit 4,5 à 5,5. Mais ce sol aphysique, si vous allez au cul, ça ne vous permettra pas d'utiliser, par exemple, la tomate. Donc, pour ce cas, il faudrait une fertilité. Vous posez la question. On ne le fait pas. Ni pas, vous verrez au pays où nous avons investi pour analyser les sols et cartographier. Les semences. Nous avons un très bon programme de distribution des semences. Mais tous ces programmes, même la loi agricole, la loi numéro 1-0-0-22, produits fondamentaux de l'agriculture. En ce cas, il est clair qu'il faudrait procéder à la production et multiplication de distribution des semences. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous importons même les semences que nous distribuons aux agriculteurs et qui vont l'utiliser seulement une seule année. Et des fois, certains lavent derrière ça et puis ils vont manger. Donc, il y a tout ça que nous ne faisons pas. Et maintenant, c'est même difficile de poser la question pourquoi nous ne déconnons pas. Nous ne déconnons pas simplement parce que nous ne faisons pas ce qu'on devrait faire. Donc, il y a toute une longue liste comme ça, vous prenez les infrastructures routières, parce que là, nous allons revenir sur ce que vous avez dit, la structuration des filières agricoles. C'est-à-dire, organiser les structures agricoles et les filières agricoles. Nous avons ceux qui doivent, les routes doivent être améliorées, les construites, les routes de défense agricole. Les producteurs doivent être formés, structurés, coopératifs. Les fournisseurs d'intrants doivent être là. Et aussi, même financiers, nous avons besoin de la peine à temps pour produire des semences, mais on doit aussi promouvoir des jeunes qui peuvent produire des semences sur cette grande quantité et nous allons distribuer. Et la formation agricole. Pourquoi ne pas former des experts sur le terrain? Et je dois vous dire une vérité. Une vérité, c'est que si nous améliorons c'est-à-dire nous formons nos agriculteurs, tout ça, nous pouvons augmenter notre production, même à 20%, sans nous verser.
Mais voilà, professeur, vous avez évoqué parmi certaines failles, en tout cas liées au fait que les secteurs agricoles ont du mal à décoller. Vous avez cité par exemple l'identification. On ne sait pas combien d'agriculteurs on a dans ce pays, mais il y a le ministre actuel de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire qui a commencé justement par essayer, lorsqu'il est arrivé aux affaires, de mener des réformes dans ces sens-là, notamment, voir quels sont les véritables acteurs agricoles dans ce pays, de ceux qui sont dans ces secteurs agricoles, et voir essayer également d'identifier quels sont leurs réels problèmes. Et vous pensez que ça peut déjà être un début de solution?
Ah oui, ça peut être un début de solution, mais là, nous sommes ici parole aux auditeurs, je crois que les gens nous suivent. Si ce système fonctionnait, il y aurait des agriculteurs ici qui seront contents pour dire voilà. Nous sommes organisés dans un groupe, il y a autant d'agriculteurs. Et moi, je trouve une part où nous avons des agriculteurs très santé et qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai vu ici, les semences ont été distribuées, j'ai rendu visite à certains agriculteurs, même dans les pages gelées à Poco, Bambessa, et ici à Itiro et tout ça. Bon, j'ai pas trouvé des agriculteurs, des gens qui ont reçu les semences, et maintenant, ils sont vraiment en train de produire. Et qu'est-ce qu'ils produisent? Tout ça, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de suivi. Mais la politique, les papiers, les intentions sont très bonnes. Mais, en tout cas, sur le terrain, je crois que ça ne marche pas. Et je suis d'accord avec vous. Et si ça commençait quand même à marcher, on verrait directement un changement. C'est ça.
Voilà, si vous êtes agriculteur et que vous êtes en train de nous suivre, je vous en prie, hein, appelez au 099-756-8079 pour nous dire qu'est-ce qui se passe exactement dans votre secteur. Surtout si vous êtes longtemps dans ces secteurs, dites-nous quelles sont selon vous les failles pour qui ont fait que, en tout cas, 65 ans après, les secteurs agricoles n'arrivent pas toujours à décoller. Donc j'insiste, si vous voulez nous appeler, il faut composer 099-756-8079. Alors pour ça, avant d'ouvrir le standard pour recueillir déjà les réactions des auditeurs. Vous avez parlé du manque de structuration des filières agricoles. Qu'est-ce qu'il faut, il fallait absolument faire pour ce qui est des filières agricoles?
Vraiment, ça c'est capital. Tout ce que nous devons faire, c'est inverser la logique aujourd'hui. Nous donnons des mots. Données, paiement, route, formation, coopérative. Oui, j'ai donné tous ces mots. Tout ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est organiser tout ça dans organiser toutes ces parties prenantes, tous ces acteurs qui contribuent à la production agricole, donc de la production jusqu'à sur la table. Il faudrait simplement les organiser. Chaque secteur, les agriculteurs, il faut les former. Et les fournisseurs d'intrants, il faut les organiser. Donc. Et les routes, les infrastructures routières, il faut les construire. Donc, quand on organise tout ça, et on les met ensemble bien coordonnés et structurés, vous avez la structure et la structuration des filières agricoles. Et c'est ça. Et on ne peut pas développer parce que, en fait, l'agriculture ne peut jamais fonctionner en silo. C'est que lorsque toutes les chaînes de valeur agricoles sont valorisées, c'est pourquoi on appelle chaîne de valeur agricole. Et cette structuration est capitale.
Voilà, professeur, on revient à vous, le temps pour nous de nous tourner vers le standard. Comme je l'ai dit, pour recueillir les avis des tout premiers auditeurs, nous avons Jérémy Mamba qui nous appelle depuis le Bombassé, Georges Kilangalanga, qui j'imagine doit être qui s'encagne à Bounia. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'Africain de la Paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs, nous parlons aujourd'hui du secteur agricole en RDC. 65 ans après l'indépendance, si vous voulez intervenir, composez les 09-706-80-79.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons Jérémy Mamba depuis Lubumbashi. Jérémy, on vous écoute, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour également à l'invité. Le sujet, il est pertinent d'ailleurs parce que au regard en dépit de ce que nous avons comme terre arable, et après qu'on a passé 65 ans, en tout cas, c'est l'heure de la sagesse. Malheureusement, nous descendons plus bas avec tout ce que nous avons. Et pourtant, moi, j'ai toujours dit ceci. Les secteurs qui peuvent sauver et délivrer notre pays, c'est le secteur agricole. Pourquoi je l'ai dit? Parce que à un certain moment, nous nous sommes beaucoup focalisés sur les cuivres verts, tout ce que nous avons comme minéré, des ressources. Mais on s'est rendu compte que on n'avance pas du tout. Nous regardons aujourd'hui les plus grands problèmes qu'il faut. Il faut commencer par révolutionner ce secteur. Nous avons un ministre qui est là. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est le moment de pouvoir révolutionner les choses. Pour avancer, il faut d'abord jeter un regard rétrospectif pour voir. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous devons faire au jour d'aujourd'hui? Moi qui suis ici dans la province du Haut-Katanga, lorsque ne fût-ce que le tout petit pays, la Zambie, ferme sa frontière avec la RDC, nous pleurons. Parce que nous importons tout, même le piment, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui nous manque ici pour que nous puissions bousculer les choses? Moi, j'ai toujours dit que nous avons les problèmes d'hommes. Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut seulement un homme pour venir appuyer sur un bouton déclencheur et directement tout avance de soi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une politique de décentralisation. On donne le pouvoir aux provinces avec la politique de rétrocession. Parce que ici chez nous, on a toujours parlé, on dit de retenir à la source. Même la rétrocession n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui veut dire que on dépend toujours, tout est centralisé. Et lorsque tout est centralisé, qu'est-ce qu'on peut attendre de spécial? Il y a eu le problème de PEDEL. 145 territoires. On a alloué des montants à chaque territoire. Qu'est-ce que chaque territoire pouvait faire jusqu'à la minute où nous parlons pour pouvoir révolutionner, mais puisque chacun son territoire? C'est dommage. Il y a un déséquilibre sur tous les plans. Il y a certaines provinces qui émergent, où il y a du sérieux, et là où il y a des détournements à grande échelle, rien ne marche. Si ce ne sont que des querelles intestines. Voilà. Nous nous sommes restés à nous focaliser sur des querelles au lieu de nous faire avancer. Mais qui doit faire ça concrètement? Mais c'est tout doit partir du pouvoir central. Qu'est-ce qu'on met en place comme politique pour pouvoir, n'est-ce pas, bousculer, révolutionner le secteur agricole?
Mais Jérémy, s'il vous plaît, oui. La grande question que l'on se pose, il y a eu tout de même tout au long de 65 ans du programme de relance agricole dans ce pays. D'après vous, pourquoi ça n'a pas marché?
Bon, moi je dis que ça n'a pas marché, c'est ce que je dis que nous avons un grand problème d'hommes. Si aujourd'hui, on oblige à chaque député national, chaque député provincial, de n'avoir ne fût que quelques hectares. Moi, je l'ai vu à l'époque de Moïse, M. Moïse Katumbi-Chapwe. Je ne fais pas de l'amalgame. Il a eu à instruire tous les députés provinciaux. Chacun avait au moins un hectare et quelques hectares. Et il y a eu développement. Qu'est-ce que nous attendons? Il n'y a pas de miracle à faire. Les députés sont là-bas, ils ont des émoluments exorbitants. C'est là qu'il fallait que toutes les choses marchent.
Voilà, merci beaucoup Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. Franck, vous nous appelez depuis Vienne en Autriche. Vous avez la parole, Franck, on vous écoute.
Bonjour, Marcel. Bonjour à votre studio, bonjour aussi à l'invité. Tel que le sujet ou la thématique a été présentée, en principe, il n'y a même plus à discuter, il n'y a même plus de débat à faire, il n'y a même plus d'objections à faire. Parce que nous devons commencer par reconnaître que nous sommes un pays, au lieu d'être d'abord un pays à vocation agricole, ce qui devait provoquer, ce qui devait susciter notre élan du développement, nous sommes plus un pays qui produit des grands orateurs, des orateurs prieurs, des orateurs journalistes, des orateurs musiciens, des orateurs chanteurs, des orateurs défenseurs de tels partis politiques, ainsi de suite, alors que les vraies priorités, on les met à côté. Alors, si je dois personnellement regarder ce qui se fait ailleurs, la plupart des grandes nations qui se sont développées, qui sont même des superpuissances, ces États-là exploitent d'abord le secteur agricole. C'est au-delà du secteur agricole qu'on peut ajouter l'industrie automobile, aéronautique, et ainsi de suite. Mais malheureusement, chez nous, il y a seulement, s'il faut être bref pour laisser assez d'espace aux autres, il y a l'absence d'une réelle volonté politique pour booster certaines politiques sectorielles, surtout du côté agricole. 65 ans après, si nous devons voir là où nous sommes, je crois que c'est une honte. Mais seulement chez nous, quand on dit des choses telles que ça se vit, il y en a qui pensent qu'on est extrémiste et on exagère. Donc, pour arriver aux successions, parce que nous sommes nombreux, moi je crois que mon ami, notre frère Jérémy venait de dire qu'il faut d'abord commencer par respecter ou revaloriser la politique de la décentralisation, arriver à doter nos provinces de certains budgets conséquents, et à ce niveau-là aussi, il ne faut pas qu'on laisse tout entre les mains de l'État. Parce que là où je suis personnellement, je vois que les fermiers qui se regroupent en structure, il y a un regroupement de fermiers, par exemple, qui produisent le maïs, il y a un regroupement de fermiers pour produire la pomme de terre et ainsi de suite. Et ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des matériaux, des structures. Ils sont appuyés, accompagnés par l'État. Mais nous avons des ONG de chez nous. Là où l'État ne peut pas arriver, là où l'État ne peut pas agir, pourquoi ne pouvait-il pas recourir à tous ces gens qui sont parfois en train de travailler dans les bénévolats pour venir en aide à la population congolaise, alors que l'argent destiné pour la même population prend des traçabilités inconnues. Je crois que pour certaines provinces, comme le Kwilu par exemple, ou le Grand Bandundu général, c'est essentiellement une grande province à vocation d'abord agricole. Dans le Grand Bandundu, nous n'avons pas beaucoup de minéraux, donc on n'en a vraiment pas. Mais si on doit encore négliger le secteur agricole, sur quel pilier peut se reposer le développement d'une telle province. Moi, je crois qu'il y a des ONGD qui travaillent déjà. Hier, j'ai parlé de l'ADPK. On est aussi dans le domaine agricole. On est en train de chercher à encadrer les gens, à soutenir, à orienter, à offrir des formations. Mais si on doit, par exemple, doter de moyens, un peu de moyens à de telles structures, je crois que les résultats seront là. Et personnellement, je trouve que nous devons cesser de faire croire à l'opinion qu'il suffit seulement de tenir une déclaration politique devant les micros de la presse et que tout devient réalité. Donc, nous parlons, nous disons, mais on ne fait rien. Et pour un pays avec autant de potentialités naturelles, si nous devons vraiment dépendre de l'extérieur, c'est une honte. Mais quand on nous le fait voir que là où nous sommes paresseux, nous devons changer, il y a des Congolais qui n'ont jamais été conscients pour reconnaître que quelque part, nous avons des gammes de déficits. Donc, le secteur agricole ne peut pas être négligé. Et tant qu'on va continuer à les négliger, nous resterons toujours à l'arrière-plan.
Voilà.
Parce que même pour récolter ce qui peut être produit chez nous, on n'est pas des autres. Et le grand danger, les autres veulent maintenant profiter de notre position géostratégique pour faire de la RDC seulement un grand marché de consommation. Mais si nous devenons seulement un marché de consommation, les jours où ces robinets de livraison seront fermés, qu'est-ce que nous aurons comme avenir? Qu'est-ce que nous aurons comme situation? Qu'est-ce que nous aurons comme ambition?
Alors Franck, une question de curiosité, hein, parce qu'à l'époque, comme vous le savez, les Bandundu, en tout cas l'ex-province de Bandundu, dans son ancienne configuration, était un véritable grenier, notamment pour la vieille province de Kinshasa. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises seulement, par exemple, au niveau de l'ex-province du Bandundu, pour essayer de voir quelles sont les filières pour lesquelles on peut vraiment booster l'agriculture?
Oui, mon cher ami Marcel. On produit dans nos villages. Moi qui vous parle, je vais aider dans un village dans les territoires de Boulogne là-bas. Il y a des honorables députés qui me suivent. Ils peuvent se rendre compte, par exemple, les territoires de Boulogne. Ils ont beaucoup de variétés. Ils ont l'arachide, ils ont le maïs, ils ont le manioc. Ils ont autant de produits à produire, à livrer, mais ils sont parfois bloqués, d'abord, pour faire déplacer leurs marchandises du centre de la récolte jusqu'au lieu de la vente. Il n'y a pas de route de dessert agricole. À l'époque, il y avait des bateaux courriers qui passaient, des remorqueurs qui pouvaient embarquer. On n'a plus de bateaux. Il n'y a plus de route. Alors, on peut produire dans un coin, mais les gens ont de la peine pour faire évacuer leurs marchandises produites d'un coin de production au coin de consommation. Et ne fût-ce que les routes, par exemple, la nationale numéro 17 de Mongata jusqu'à Bandundu. Mais si on peut l'asphalter, ça va déjà dépanner Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de fermes entre Mongata et Ngandambo là-bas. Les gens qui sont là-bas, ils travaillent, ils produisent, mais ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de possibilités pour évacuer leurs produits. Donc, il y a tellement de choses à faire. Dans une ville comme Bandundu, comme Tikwit, il y a beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui manquerait, par exemple, de doter certaines zones GD de moyens pour arriver à transformer ces fruits-là? Il y a des mangues, il y a des d'avocats, il y a des papayers. Pourquoi ne pas donner des moyens pour les transformer, ne fût-ce que créer des petites industries agroalimentaires? Il y a tellement de choses à faire. C'est comme ça que j'ai dit, au niveau des structures de regroupement des zones GD, on est en train de travailler, on apporte un peu des idées, mais quelque part, on est bloqué par des soutiens financiers.
Voilà, donc on retient.
Il y a une opportunité au niveau du ministère, au lieu de recourir à ceux qui se sont prononcés, qui sont déjà sur le terrain, c'est telle politique qui va chercher à créer sa structure ad hoc pour bénéficier de ces fonds, et sur place, ils n'ont pas d'efficacité, ils n'ont pas d'impact. Donc, il faut peut-être dénoncer cette manière est juste de faire des choses pour chercher à faire de la politique pour seulement se retrouver. Et je crois qu'avec l'ADPK, nous, avec le Kwilu, on peut aider dans beaucoup de points du Grand Bandundu.
Voilà, merci beaucoup Franck. Depuis Vienne en Autriche, on retient. D'ailleurs, le professeur également l'a souligné. Il faut absolument voir dans quelle mesure réhabiliter les routes des sectes agricoles. C'est très, très important. C'est d'ailleurs cela, la deuxième phase de PDL 145 territoires. On espère vraiment que c'est une phase qui va tenir de manière à ce que tout ce qui est produit dans le centre plus reculé puisse, dans le village, hein, puisse être évacué vers les centres urbains. Donc, c'est très, très important de réhabiliter les routes de dessert agricole. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. On revient au pays, plus précisément à Kisangani, pour écouter Georges Kilangalanga. On m'a dit qu'il était de retour, j'espère qu'il est toujours là. Georges Kilangalanga, vous êtes là?
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, je suis à Bounia pour le moment.
Allez-y.
Je suis vraiment, moi personnellement, ça me fait la honte de voir certaines petites choses comme ça nous échappent, nous, Congo, même si on a toutes les richesses du sol et du sous-sol qu'on est en train de décrier. La RDC, lorsqu'elle a accédé à l'indépendance, les Belges nous ont laissé quand même un pays qui était un peu viable. Et sous la Deuxième République et sous Mobutu, parce que tout le monde, quand on parle de Mobutu, on ne voit que le mauvais côté. Mais sous Mobutu, on était exportateurs, on exportait beaucoup de produits agricoles. Mais après là, il n'y a plus rien. Et moi, je pense que les problèmes du Congo aujourd'hui, c'est le manque de dirigeants compétents et visionnaires. On n'en a pas. C'est ça le vrai problème. Comment un pays comme la RDC, parce que l'agriculture, c'est un domaine qui fait appel à, également à d'autres secteurs, comme les routes, je pense que les autres l'ont dit. À un certain moment, même après l'indépendance, on pouvait quitter Kisangani jusqu'à Kinshasa par véhicule. Et un jour, vous êtes à Kinshasa. On pouvait quitter Kinshasa jusqu'à Lubumbashi par véhicule. Aujourd'hui, tout cela n'existe pas. Le problème, c'est que pour nous, notre tissu politique aujourd'hui, on accède au pouvoir pas pour servir le pays, mais on accède au pouvoir pour se servir, s'enrichir, sa famille, ses amis. C'est ça le vrai problème du Congo. Combien de discours ont été dits sur la revanche du sol, sur les sous-sols? Combien? Le président de la République est là. Tout le monde dit la vision du chef de l'État. Quand on fait un discours, on attend la vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision? Aujourd'hui, on a même l'audace, on est en train de donner l'argent à AC Milan, à Monaco, pour qu'ils supportent, qu'ils écrivent sur leur maillot visite RDC. Ils vont visiter quoi en RDC? Notre championnat est en train de pourrir. On a des secteurs comme l'agriculture qui manquent de moyens, mais on donne aux Blancs, on donne à AC Milan l'argent. Ce sont des millions. Chaque mois, chaque jour, les informations du Congo, on a détourné autant de millions. Chaque jour. Donc finalement, quel voilà. Est ce pays qui peut évoluer dans ces conditions?
Voilà, merci d'interpeller, Georges. Voilà, merci. Voilà, merci Georges d'interpeller les dirigeants congolais. Merci d'avoir appelé depuis Bounia. Avant de retrouver notre invité, on va écouter Bertin Safari qui nous appelle depuis Lubumbashi. Voilà. Bertin, vous avez la parole.
Avant de retrouver notre invité, on va écouter Bertin Safari qui nous appelle depuis Lubumbashi. Voilà. Bertin, vous avez la parole. Avant de
retrouver notre invité, on va écouter. Oui. Monsieur Marcel.
Bertin, il y a un retour désagréable. Là, si vous voulez bien fermer votre radio, hein, il y a un retour d'écho.
Oui, oui, parfait. Oui.
Allez-y, maintenant, on vous écoute, Bertin.
Oui, nous avions le plaisir de partager nos atouts à la radio Capi. Vous savez que nous avons un sérieux problème parce que nous sommes focalisés sur les minéraux. Tout le monde regarde les minéraux pour le moment. Pour moi, je trouve que c'est les minéraux qui est à la base peut-être d'une négligence de notre richesse du sol. Parce que aujourd'hui, il suffit juste de jeter quelques graines de tomates. Deux ou trois jours, vous verrez au moins la production. Et ça nous fait mal quand nous importons les choses. Et là, on ne peut pas seulement se baser en disant que non, c'est le problème du gouvernement. Mais nous aussi, nous devons aussi voir sur la conscience. Donc, nous devons être réveillés, nous devons réveiller nos consciences. Question de mettre les choses en ligne pour produire aussi attaques citoyennes. Bien sûr que le gouvernement aussi a les choses à régler. Entre autres, il y a les collègues qui ont essayé de souligner la réhabilitation des routes et des déserts agricoles qui nous créent aussi des problèmes aujourd'hui. Vous voyez, l'élevage, l'agriculture est totalement rejetée. Ce n'est pas seulement parce que le gouvernement n'est pas impliqué plutôt dans ce secteur-là, mais plutôt aussi, c'est parce que nous, la population, de quelque côté, on n'est pas concentré à l'agriculture. Donc,
Allez-y. C'est quoi votre proposition? Allez-y.
Oui, ce que nous pouvons proposer au gouvernement, ainsi que nous, la population,
oui.
Premièrement, que le gouvernement puisse nous faciliter la tâche de donner aussi de la valeur à l'agriculture et l'élevage. Comme ces mêmes valeurs sont attribuées aux minéraux. Et nous, la population, nous devons aussi s'impliquer, nous devons aussi nous montrer notre courage de s'impliquer dans l'élevage et l'agriculture.
Voilà, merci Bertin Safari depuis Lubumbashi. Vous, de votre côté, vous interpellez le gouvernement, mais aussi la population elle-même qui doit s'impliquer dans les secteurs agricoles. Merci donc Bertin Safari d'avoir appelé depuis Lubumbashi avant de poursuivre avec la seconde vague d'auditeurs et peut-être aussi de lire une de réactions sur la page Facebook. Pardon, auditeurs, je reviens à notre invité, le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti. Professeur, vous êtes là? Professeur, vous m'entendez? Apparemment, il y a quelques soucis hein, avec la ligne du professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti. Apparemment, il est là, mais il y a un problème de liaison téléphonique. On va voir au niveau de la régie comment tenter de le rappeler. Ardo, Élise, Kavire et Patrick Casson, qui sont là, ils vont s'y atteler pour rappeler les professeurs. En attendant, je veux lire cette réaction. De comment il s'appelle, voilà, Arthur Massangila qui nous écrit depuis Kinshasa. Pour les dirigeants de ce pays, l'agriculture c'est un passe-temps, sauf des slogans sans réaction, pas de volonté pour valoriser l'agriculture, pas de financement, pas de route de dessertes agricoles aménagées, des produits agricoles périssent dans les campagnes faute de moyens d'évacuation vers les endroits de consommation, faute de motivation, les paysans se découragent de jour en jour. Voilà, c'est Arthur qui a réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs depuis Kinshasa. Une autre action, c'est celle de Michi Bosenga qui nous écrit depuis Mbandaka. Le secteur de l'agriculture depuis l'indépendance n'a jamais été amélioré, sauf les slogans des politiques qui disent l'agriculture reste la priorité des priorités. Aujourd'hui, si notre pays avait amélioré les secteurs de l'agriculture, les Congolais auraient pu résoudre 70% de ce problème de sécurité alimentaire. Mais la diminution du chômage, l'émergence de tout, voilà, de sécurité alimentaire. Pour moi, j'ai dit l'émergence. Voilà, je vais lire cette réaction après parce qu'on me fait signe que l'invité est de nouveau en ligne. Comme ça, on va poursuivre avec l'invité. Professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti, on me dit que vous êtes de nouveau en ligne. Professeur, j'imagine que vous avez eu à suivre les réactions des uns des autres et qui ont essayé également de relever certaines failles hein, tout au long des 65 ans pour ce qui est du secteur agricole. Vous l'avez également dit, il y a des filières pour lesquels il fallait absolument que l'État puisse développer des stratégies pour voir dans quelle mesure ces filières pourraient apporter de ce qu'il faut pour nourrir la population. Il y a ceux également qui ont insisté sur la réhabilitation de routes et des sectes agricoles. Vous en avez également parlé. Mais quelque part, il y a ceux également qui interpellent aussi bien le gouvernement que la population elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur?
Ah, j'ai suivi les interventions pertinentes de tous nos auditeurs. Vraiment, je suis d'accord sur la plupart. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'échec est collectif. C'est vrai que l'impulsion doit venir du gouvernement, et comme notre ami Bertin l'a mentionné, c'est un échec collectif. Parce que l'agriculture est négligée sur tous les plans, même dans les milieux ruraux. Vous verrez des gens qui ne veulent même plus cultiver. Mais il faudrait aussi des gens capables pour les inciter à cultiver. Et comme l'a dit M. Jérémy, je suis d'accord, il faudrait une approche territorialisée de la relance agricole. Ça doit se faire au niveau de chaque territoire. C'est pourquoi j'ai toujours salué le projet initiatif de PDF 145 territoires. Parce que là, on doit développer au niveau des territoires. Il faudrait peut-être une coordination provinciale, mais lorsque nous allons territoire par territoire, nous commençons par recenser les agriculteurs là-bas. Nous les organisons. Et nous avons des moniteurs agricoles formés. Et il y a un fonds souverain agricole où on va permettre de donner des crédits. Il y a minéral, il y a la production des semences. Et là, c'est tout à fait au niveau territorial. Et aussi, les ministères des travaux publics, ainsi de suite, font, il y a aussi le ministre du développement rural qui le fait, peut en fait que nous puissions avoir des connexions des routes et des sites agricoles et qui vont être aussi connectés territoire par territoire. Et là, on est parti. Donc, une approche territorialisée, telle que suggérée par M. Jérémy, je suis d'accord. Il en est de même aussi de notre ami du Grand Bandundu et je crois...
Franck. Franck qui a appelé, qui a parlé.
Voilà. est tout à fait d'accord, aussi bien pour M. Georges Itani Touri. L'agriculture qui devait être notre fierté nationale, et aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est une honte nationale. Ça, c'est pas un avis, c'est un constat. Amer, accepté, mais oui, c'est vrai. Alors, tout ce que nous devons faire, comme nos amis et nos ont dit, faudrait, le moment est venu, 65 ans, c'est l'âge de la sagesse. On doit réfléchir, on doit faire quelque chose. Mais on n'est plus au discours, au plan, et j'ai dit tous ces documents. Nous avons de très bons documents. On peut m'appeler politique vitrine, parce que c'est là pour embellir. Mais mettre en application, c'est là où le problème se pose. Vous allez dans la loi agricole, je crois l'article 31, c'est tout simplement qu'il faudrait organiser les petits agriculteurs. Ils ont cité des crédits agricoles, subventions, assistance technique. Mais on ne les fait pas. Pourquoi on ne fait pas?
Alors, donc, professeur,
comme les Anglais disent,
oui. Ouais. Professeur, vous avez insisté, vous également, qu'il faut absolument financer ces secteurs à travers, par exemple, des banques de crédit agricole. Mais professeur, comment tirer les leçons du passé? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à l'époque de Mobutu, je le dis, je le répète encore, il y avait une banque de crédit agricole, il y a ceux qui avaient pu accéder à ce crédit, mais plutôt que l'argent reçu puisse travailler dans les secteurs agricoles, l'argent travaillé dans autre chose, dans d'autres secteurs, il y a ceux qui ont même acheté plutôt des habitations par rapport à ça. Maintenant, il faut comment faire pour rectifier l'éthique? Parce que c'est bon d'avoir un coup de banque de crédit agricole, c'est bon d'accorder encore des crédits, mais comment rectifier le tir de manière à ce que les erreurs du passé ne puissent plus se répéter?
Absolument, c'est vrai. Il faudrait absolument qu'il y ait des banques de crédit agricole, des fonds souverains agricoles, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que lorsque le système n'est pas structuré, je ne crois pas que vous serez d'accord qu'on donne à quelqu'un votre argent pour tourner sur un agriculteur, parce que vous ne le connaissez même pas. Et ces agriculteurs ne sont même pas suivis. Vous ne savez même pas ce qu'il va récolter. Et vous allez ici à Kinshasa, j'ai oublié, il y a plein de gens qui étaient là-bas. Mais la plupart vous diront qu'ils ont échoué. Il n'y a pas d'analyse de sol, il n'y a personne qui s'encadre, il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'il faut planter. Et tout ça, ça demande des moyens. Et ailleurs, les gouvernements, à travers des structures plus spécialisées, apportent cette assistance technique, c'est capital pour les agriculteurs. Mais les agriculteurs ne sont pas formés. Ça dit que même si nous avons des banques de crédit agricoles aujourd'hui, ça sera difficile. Mais pour un directeur de banque, pour offrir des crédits. Mais je vous assure, une fois que le système est bien structuré, nous savons combien d'agriculteurs et les ingénieurs agronomes peuvent nous dire un peu des projections, combien ils vont produire. Parce que c'est le business. On peut dire, voilà, ici, on peut produire autant. Je vous dis, il y a des banques qui ont l'argent et qui n'attendent qu'à financer. Mais aujourd'hui, là, ça sera difficile d'avoir une banque de crédit agricole sans inspirer le système, connaître qui est agriculteur. Et pourquoi je dis ça? Prenez seulement l'exemple des semences. Lorsqu'on distribue les semences, qui fait le suivi pour savoir combien a été distribué et qu'est-ce qu'on a récolté? Il n'y a personne. Et la même chose avec l'argent. On risque de jeter l'argent comme ça, mais après, parce qu'il faudrait qu'on finance et puis ces gens puissent repayer, on les aide à repayer, pour que les autres puissent aussi contracter ces crédits-là. Mais si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'on va déverser l'argent, débourser l'argent, dès le départ, mais il n'y aura pas une pérennisation. Et là, ça sera un problème. Très bonne initiative, ça fait partie des chaînes de valeur agricole, et chaque chaîne, chaque secteur, acteur, doit être impliqué dans cette chaîne-là. Et c'est vrai que les choses vont avancer. Donc le problème est vraiment, le mal est profond.
Voilà, les mal est profond, parce que vous avez également suivi le gouvernement, on voudrait bien relancer ce projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous pensez également que c'est bon cette fois-ci de relancer ces projets, s'il faut le faire, quelles sont les garanties qu'il faudra mettre en place pour ne pas encore tomber dans tout ce qu'on a décrié par le passé?
Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en fait, quand vous prenez la cartographie des agriculteurs, il y a les grands agriculteurs, il y a les moyens et aussi les petits agriculteurs. Je ne sais pas, parc agro-industriel, on mettra ça peut-être dans la catégorie des grands producteurs. Et c'est bon, si toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions encore financer et aussi avoir une production viable, on pourra avoir des retombées. Mais prenez aussi le même montant et nous allons avec les petits agriculteurs, qui représentent plus de 65%. Pourquoi ne pas aller les former? Pourquoi ne pas multiplier, avoir des centres de multiplication de semences et distribuer là-bas? Parce que ce sont ces gens-là qui nourrissent. Mais quand il y a une distribution, c'est bien. Bon, ça pourrait peut-être aider à Kinshasa et tout ça, mais prenez tous les Congos. Pourquoi ne pas aller territoire par territoire, aider les agriculteurs, former des ingénieurs agronomes qui vont encadrer les agriculteurs? Pourquoi ne pas faire ça? Moi, je crois que rentrons, c'est que les Anglais disent « back to basics ». Donc, rentrons un peu faire l'agriculture comme ça a été fait en 1950. Et je vous dis, dans chaque territoire, il y avait les chefs agronomes qui avaient une habitation, au même titre que l'agriculture du territoire. Et c'est l'importance qu'on accordait à l'agriculture. Et si on peut faire ça, et je crois, le parc agro-industriel, pour moi, c'est un avis personnel, pourrait venir après. Je pense que rentrons et faisons un peu d'encadrer les ruraux. Ils vont nous nourrir. Ça, je peux vous promettre. Ils vont nous nourrir.
Voilà, professeur. Et on va les nourrir. Professeur, permettez qu'on prenne le dernier auditeur et puis on va conclure avec vous. Nous avons Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Nous avons également Germain Kanini. On va écouter ces deux auditeurs-là et puis on va conclure avec le professeur Jean-Robert Nzanza Bombiti. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. On vous écoute, vous avez la parole.
Oui, merci, cher Marcel. Bonjour à l'invité. Cher Marcel. 65 ans après l'indépendance, l'agriculture congolaise reste une promesse non tenue. L'agriculture en RDC ne décolle pas parce qu'elle reste prisonnière d'un cercle vicié. Manque de vision, faible investissement, infrastructure déficiente et technologie archaïque. Cher Marcel, je dois économiser le temps vu le peu de minutes qui nous reste. Je vais demander quelques préoccupations à l'invité. La première question, le gouvernement respecte-t-il l'engagement de Maputo de consacrer 10% du budget national à l'agriculture? Ça, c'est la première question. La seconde question, quelles politiques agricoles ont été mises en place depuis l'indépendance? Ont-elles été efficaces ou non?
Voilà.
Voici
merci.
Les deux préoccupations, cher Marcel.
Voilà, merci Blaise. Depuis Kisangani, nous allons prendre le tout dernier, c'est Gaël Yvon qui nous appelle depuis Bounia. Il est étudiant, c'est ça, en sciences économiques et environnement, à l'université de Bounia. Gaël Yvon, vous avez la parole, on vous accorde deux minutes, comme ça on va retrouver notre invité pour conclure. Allez-y, on vous écoute.
Bonjour, cher Marcel. Je vous remercie pour cette édition très importante. Et tout, pour nous ici à Ituri, où la sécurité ne cesse de s'aggraver. Malgré cela, nous avons constaté que nos agriculteurs continuent de travailler souvent au péril de leur vie. Mais pourtant, nous avons remarqué qu'il manque de tout la sécurité, ou soit les encadrements, des infrastructures de qualité, mais aussi de financement dans ce secteur. Je voudrais poser deux questions pour l'invité du jour. La première question ici est de savoir pourquoi l'État congolais ne place-t-il pas réellement l'agriculture au cœur de ses priorités, alors que ce secteur pourrait jouer un rôle clé dans la paix, l'emploi et la sécurité alimentaire, surtout dans des provinces de crise comme celle de l'Ituri, Nord-Kivu et d'autres provinces. Ma deuxième question est de savoir quelles sont les actions concrètes prévues à court et à long terme pour accompagner les agriculteurs ituriens, sécuriser leurs zones de production et surtout encourager la transformation locale de nos produits agricoles. Je pense que c'est ça mon
voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Gaël Yvon d'avoir appelé depuis Bounia. On va retrouver notre invité, le professeur Jean-Robert Ndandi Bombiti. Vous avez suivi en tout cas ces deux derniers auditeurs. Il y a Blaise Saïdi qui est revenu sur le budget accordé au secteur agricole, qui a également posé la question sur la politique agricole en RDC. Et vous avez également suivi Gaël Yvon qui s'est particulièrement penché sur la situation à Bounia. Et il a demandé par exemple pour ce qui est de province où il règne quand même l'insécurité, malgré cela, il y a des agriculteurs qui sont vraiment en train de produire. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour les aider à augmenter leur production? Professeur Jean-Robert Danza, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien suivi les auditeurs. L'engagement de Maputo, il faut le dire, les budgets que nous avons suivis l'année passée, je crois que c'est même 11%. On respecte. Mais vous savez, c'est pas seulement qu'il faut respecter l'engagement. Il faudrait aussi l'affectation de ces budgets. La question serait plutôt, est-ce que les 10%, les 11% prévus, on l'affecte vraiment pour permettre à ce qu'il y ait relance agricole? Je crois que là où les problèmes se poseraient. Et aujourd'hui, on est à 6 mois. Les résultats, je crois, tout le monde peut le voir. Il n'y a peut-être rien comme ça pour dire, effectivement. On ne sait même pas si ça a été affecté ou pas. Et si ça a été affecté, c'était dans quel secteur clé du secteur agricole. Donc ça, nous ne savons pas. Et les politiques agricoles durant depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, on doit le dire, au début, je l'ai dit, il faut faire ce bilan historique global. C'est plus de 40 projets. Et je crois que ça va, 40 projets ou initiatives politiques, ainsi de suite. Ça va nous prendre tout le temps. Il y avait la période coloniale, ça c'est post-indépendance, on sait l'exploitation, il y avait des infrastructures et tout ça. Et puis, il y a un moment qu'on appelait État-Régie. Ça, c'était 1965 à 1980. Il y a une création des régies agricoles qui visait à centraliser, moderniser le secteur agricole. Mais ça a été un peu plus politisé et inefficace dans le sens que ce que nous avions, les Belges nous avaient laissé, petit à petit, nous commençons déjà à détruire avec ce qui s'est passé là, vous savez, la dérénalisation et ce qui a suivi. Mais après, vers 1982, il y a eu relance, plan de relance. Il y a eu différents plans de relance agricole. Après, il y a eu libéralisation. Donc, c'est un peu une longue liste comme ça. Période post-conflit. Et dernièrement, ici, nous avons aussi des programmes de PDF-45, ITA, ainsi de suite. Bref, durant 65 ans, les projets, les programmes, tout ça, il y en a eu. Et pour aller en détail, projet par projet, analyse critique, je pense que ça sera l'objet peut-être d'une autre émission, sinon ça va prendre tout le temps ici. Mais du coup, tous ces programmes prévoyaient une seule chose, promettaient une seule chose. Comme vous l'avez dit, une promesse non tenue. Et la promesse, c'était assurer la souveraineté alimentaire de la République démocratique du Congo. Je crois qu'on n'a pas pu atteindre ça. Voilà. Donc il faudrait changer de logiciel.
Voilà, on s'arrête par là pour aujourd'hui, professeur, pour cette question du secteur agricole en RDC. 65 ans pour l'indépendance, on pourra y revenir prochainement. Merci beaucoup, professeur Jean-Robert Danza Bombiti. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture intelligente et durabilité. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs des séjours. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci, merci, merci. À partir de Kiasongwa qui était là pour la mise en œuvre de ce magazine. Élise Kavira qui l'a réalisé et coordonné. Et bien sûr à Paul Badianama de l'équipe multimédia au micro. C'était Marcel Ngomoba. Le plaisir de vous retrouver prochainement dans un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.